الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dans ces derniers versets du sourate سبح اسم ربك الأعلى، الله عز وجل s'adresse au prophète عليه الصلاة والسلام، et Allah عز وجل s'adresse à la Ummah par ces termes: قد أفلح من تزكى، réussi certes celui qui se purifie. Et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Mais vous préférez plutôt la vie présente. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et ces versets, ces akhbar, ces informations qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, cela se trouve dans Inna hadha la fi suhufil ula, se trouvait déjà dans les feuilles anciennes. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, Suhufi Ibrahim wa Musa, les feuilles d'Abraham et de Moïse, alayhima as-salatu wassalam. Donc mes chers frères, la dernière fois, on avait vu le verset qui nous rappelle qu'il y a deux catégories de musulmans. Il y a deux catégories, pardon, de personnes. Il y a ceux qui savent écouter les discours, qui comprennent et dont les discours touchent les cœurs. Et les discours, on va peut-être s'approcher, au moins on n'a pas besoin de parler trop fort. Il y a donc ces gens dont les discours atteignent leur objectif. Et les discours touchent les cœurs et les personnes, hein, ils se servent de ces discours, des rappels, des versets du Coran, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, pour augmenter leur iman et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première catégorie de personnes, ceux qui ont la crainte d'Allah dans leur cœur. Ça c'était le sens de « Sayyad zakkaru man yakhsha ». Et on avait vu que Allah Azza wa Jalla dit le Coran: "Walladhina idha dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summa wa 'umyana." Et d'autres versets de ce sens, que les gens d'avant, lorsqu'ils écoutaient les versets du Coran, cela touchait leur cœur, zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, que cela augmentait leur iman et augmentait leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela doit être la situation du musulman. Si ce n'est pas le cas, on doit s'inquiéter. Si on écoute les paroles d'Allah, les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam, et que malgré ça, cela ne fait strictement aucun effet, c'est là qu'il y a un problème. Maintenant, qu'il y a une présence de iman, une montée, on pourrait dire, de iman, alhamdulillah, après avoir écouté des paroles bénéfiques, des paroles spirituelles, et que peu à peu, cela finit par s'estomper. L'effet finit par diminuer peu à peu, ça c'est tout à fait normal. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'on n'a pas été créé malaïque. Et le hadith très connu, c'est lorsqu'il y avait un groupe de sahaba, Hanzala, je cherche le nom, je trouve Ukash et Hanzala. C'est Hanzala, radiallahu anhu, qui était auprès du prophète alayhi salatu wassalam avec des sahaba, et ils écoutaient, hein, tout le monde, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et arrivé chez lui, il se rend compte que lorsqu'il retrouve son épouse, lorsqu'il retrouve ses enfants, ben c'est comme si que cette puissance de iman qu'il y avait dans son cœur en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si que cela finissait par diminuer, par s'estomper. Alors là, il a eu un doute. Il est retourné voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre sahaba qui était avec eux, hein, qui était dans le même groupe, qui dit: ben, tu vas où? Il dit: je vais voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: pourquoi? Il dit: que je pense que je suis devenu munafiq. Sahaba, c'est quoi son problème? C'est qu'il craint de perdre un gramme de iman. Il craint de perdre une petite quantité de iman. C'est ça son grand souci. Il se rend compte qu'auprès du prophète, il est au top sur le plan spirituel. Mais une fois qu'il retourne avec sa femme et ses enfants, c'est comme si que, ben, il se plaît à être avec sa famille, comme nous, n'importe qui. Quand on retourne à la maison après une journée de travail, est-ce que, Alhamdulillah, celui à qui Allah a donné une famille et des enfants, et ceux qui n'en ont pas, qu'Allah leur accorde, Inch'Allah, le plus vite possible. Quand on retourne auprès de femmes et enfants, est-ce qu'on n'est pas content? On est content. Il y a une certaine joie dans le cœur où on trouve ses enfants, même s'ils font des ordres, même s'ils crient et tout, mais dans le fond, c'est pas comme, si vous êtes enseignant à l'école, c'est pas comme si c'est les enfants des autres qui crient en classe, ça agace. Mais quand c'est vos enfants qui crient un petit peu, ben vous savez que c'est de la joie, c'est la vie familiale. Et d'une certaine manière, on se sent apaisé, même s'il y a du bruit. Sahaba, c'est le même schéma, vous savez, c'était pas des malaïkas. Ce n'est pas des gens qui habitaient dans la masjid, qui faisaient itikaf du matin jusqu'au soir, et qui jeûnaient tous les jours, et qui faisaient qiyamoulay toute la nuit. Non, c'était des hommes avant tout. Comme vous et moi, des hommes mariés, des hommes qui avaient des enfants, des hommes qui devaient travailler. S'ils n'avaient pas travaillé, ils ne pouvaient pas manger. Soit ils étaient commerçants, soit ils étaient agriculteurs, ou d'autres professions, artisans, et travaillaient de leurs mains. Et s'ils ne faisaient pas ça, ils ne pouvaient pas manger. Donc ils avaient le yakin en Allah, ils faisaient l'ibadat, et ils amenaient les asbab, les intermédiaires pour avoir leur pain quotidien. Ils devaient nourrir avec idnillah leurs femmes et enfants, avec la conviction qu'Allah qui est le razir, qui est celui qui pourvoit, qui donne la nourriture. Bref, les sahaba, ils avaient le même schéma de vie que nous, comme n'importe quel homme, à n'importe quelle époque, dans n'importe quel continent. Voyez. Mais ce sahaba, il a un souci. C'était, imaginez que vous sortez de la banque. Vous sortez de la banque et vous avez fait un retrait d'argent. D'accord? Vous avez 500 euros de votre poche. Beaucoup d'argent, vous avez 500 euros, vous avez acheté telle chose, vous avez prévu le budget pour un certain nombre de jours. Et qu'en chemin, vous rendez compte que vous avez perdu cet argent. Avec quelle inquiétude? Voilà, vous avez perdu votre carte. Ceux qui ont American Express, ceux qui ont je sais quelle carte, subhanallah, barakallahu fikum, nous, on n'a que carte vitale. Donc, vous cherchez votre carte, vous ne trouvez pas. Dans quel fikar vous êtes? Dans quel souci vous êtes? Là, vous allez retourner auprès du guichet, vous allez chercher par terre, vous allez interroger les gens, vous êtes inquiet. Pourquoi? Parce que vous venez de perdre deux liens. Vous venez de perdre soit de l'argent, soit votre chéquier, soit votre carte bancaire. Bref, vous venez de perdre quelque chose dont vous connaissez la valeur. Pourquoi vous connaissez la valeur? Parce que vous avez travaillé. Depuis lundi jusqu'à samedi, vous travaillez, vous êtes fatigué, vous donnez de votre temps, de votre corps pour ce travail, pour avoir ce revenu, pour acheter à manger, pour acheter des vêtements, pour que la famille vive correctement. Et que d'un coup, vous perdez ça. C'est normal, c'est insan, c'est la création de l'homme qui est comme ça. On est attaché à ça parce qu'on en connaît la valeur et donc on est attristé si on a perdu. Mais le sahaba, ce n'est pas ça qui lui causait du souci, lui. Il retourne auprès du prophète alayhi salatu wasalam avec le même fikar que moi j'aurais, dans le cas de figure que j'ai cité en perdant de l'argent, mais lui il y va parce qu'il a eu un doute sur son iman. Il a eu un doute, il dit comment cela se fait-il qu'auprès du prophète je sens ma foi exploser, je suis rempli de iman, et que je retourne auprès de madame et des enfants, je me plais avec mon épouse, avec mes enfants, je joue avec les enfants, il y a l'ambiance familiale, c'est comme si que je suis pris de rafla. Je suis pris de, qu'on pourrait traduire rafla, d'insouciance. Mais ce n'est pas d'insouciance, c'est la joie familiale. Alors juste ça, il n'a pas fait péché, hein. C'est pas qu'elle arrive son cas, comme nous, Allah pardonne, nous ça regarde télé, nous ça chie à médecin, nous fait n'importe quoi. Non, il n'a pas fait de péché. Il s'est juste plaît à rester auprès de sa femme et ses enfants. Il a eu un doute, il dit peut-être que mon iman n'est pas vraiment solide, peut-être même que je suis un hypocrite. Que je n'ai pas vraiment la foi de mon cœur, alors que c'est des gens qui donnent leur vie pour Allah et son prophète. Qui sont prêts à donner leur vie tout de suite pour Allah et son prophète. Vous voyez comment les sahaba, ils se faisaient du souci pour leur iman. Wallah, ici, nous nous faisions autant de soucis pour notre foi que nous en faisons pour notre bien, nos revenus, notre loyer, tralali, tralala. Wallah, on serait au même niveau que les sahaba. Et alhamdulillah, pourquoi ils se font autant de soucis? Parce qu'il sait par quel chemin il est passé pour arriver au iman. Par quel chemin il a dû passer pour pouvoir lire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Comme c'était le cas de tous les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Toute la première génération de sahaba, ceux qui ne sont pas nés musulmans, ceux qui ont dû se convertir à l'islam. Il y a quelques... Il y a mercredi, on faisait sirat pour les enfants de 10 ans, 11 ans, et on racontait l'histoire des premiers sahabas qui étaient persécutés dans le chemin d'Allah. Et ça, qui c'est qui ne connaît pas l'histoire d'Hazrat Bilal? Tout le monde connaît. Tout le monde est capable de raconter l'histoire de Bilal, al-Habashi, radiallahu anhu. Mais quand on raconte ça, subhanallah, aux enfants, hein, on se rend compte qu'on essaie de faire passer le message que nous, on a cette chance qu'on est né musulman. Vous voyez, alors même ceux qui ont dû se convertir, alhamdoulilah, ils ont eu la guidée, mais avec, subhanallah, une certaine facilité. Même s'il y a eu des soucis avec la famille ou autre chose, mais personne n'a été torturé. Personne n'a été frappé, personne n'a été expulsé, personne n'a été agressé physiquement ou humilié. Personne. Les sahaba, quand ils ont fait le i'lan de la ilaha illallah, ils ont osé dire qu'ils sont musulmans. Il y en a qui ont été chassés de leur famille, chassés de leur maison. Il y en a qui ont été torturés, persécutés, brûlés au fer chaud. Bilal, regarde, brûlés au fer chaud. Les sahaba ont attaché une corde autour de leur cou, on les tirait. Bilal a dû supporter des pierres lourdes sur sa poitrine. On connaît les histoires, mais il ne faut pas les lire comme on lit d'autres histoires. Wallahi, ce n'est pas l'histoire de l'Amérique, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la colonisation. Non, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas des gens qui se sont battus pour des droits. Ce ne sont pas des gens qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Ce ne sont pas des gens qui se sont battus pour avoir leur indépendance ou l'argent ou les biens ou autre chose. Non, ce sont des gens qui ont enduré mille et une peines pour laisser iman de leur cœur. Pour pouvoir dire aux gens qu'on a un trésor, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on veut vous donner de ce trésor. C'est pour ça que l'histoire des sahaba, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'histoire des sahaba, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Je ne dis pas de l'humanité parce que pour chaque prophète, il y a eu des gens comme eux. Comme Ashab al-Khudud, un jour qu'on arrivera, ou alors lisez toujours côté l'Ashab al-Khudud. Les gens de Ashab al-Khudud, on les tuait parce que c'est quoi le problème? La seule chose, la vengeance des gens, c'était quoi? C'était pas parce qu'ils devaient de la Allah, c'est juste parce qu'ils disaient la ilaha illallah. Uniquement pour ça, on les mettait dans un fossé et on brûlait ces gens vivants. Hommes, femmes et enfants. Et les gens s'asseyaient et regardaient. Donc à toutes les époques, il y a eu des gens qui ont fait ce sacrifice énorme pour garder leur foi. Et j'ai expliqué aux élèves que mon iman à moi maintenant, en tant que Dionysien de l'île de la Réunion en 2011, je le dois d'une certaine manière à Bilal. Je le dois d'une certaine manière à Abu Bakr, à Omar, à Uthman, à Ali, à Moussa bin Umar, à Sa'd bin Mu'adh, à Usayd bin Khudayr, à tous ces gens qui ont supporté les difficultés des premiers jours de l'islam, qui ont duré ça, et par bi'idnillah, par le sacrifice, le noyau, hein, il s'est agrandi. Parce que si dès le départ, les sahaba, ils voyaient les difficultés, ils abandonnaient, la personne n'aurait accepté l'islam. Les attributs, parce que les attributs, ils examinaient. Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent, Mohammed, est-ce qu'il y a des gens qui marchent avec lui? S'ils voient qu'il n'y a personne qui le suit, ça veut dire que c'est quelqu'un de marginal, qui dit n'importe quoi. Bi'idnillah, la foi de chaque personne présente, on le doit d'une certaine manière à chaque sahaba qui a fait le premier effort pour accepter la ilaha illallah, pour rester ferme de leur iman, pour supporter mille et une peines, tortures, persécutions et humiliations pour garder ce iman, et ils ont pu le transmettre aux autres tribus arabes, et qui l'ont transmis ensuite aux autres générations qui sont venues après eux, jusqu'à ce qu'il y ait des sahaba pour ceux qui sont d'origine indienne, qui ont été jusqu'à Sindh, hein, cette région du monde qui comportait l'Inde, le Pakistan, le Kashmir, etc. Et d'autres sahaba qui ont été jusqu'aux îles Comores, dont les tombes, la tombe est toujours présente, pour propager la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc le iman de n'importe qui présent ici, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit ceux qui ont embrassé l'islam maintenant ou après, nous le devons tous à l'effort des sahaba. Donc analysez cet exemple adjib, l'histoire de Hanbala, qui craint, il a peur d'une seule chose, qu'il ne soit pas un vrai mu'min. Regardez l'exemple de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il savait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dévoilé à un sahaba, j'ai plus son nom, c'est Abdurrahman bin Auf, si je ne me trompe pas, il avait dévoilé à ce sahaba le nom des 40 grands munafiqs de cette ummah. Le nom des 40 grands hypocrites de cette ummah. Et vous savez c'était quoi l'obsession de Umar? Il allait voir tout le temps la personne. C'est comme si que, là je donne un autre exemple, c'est comme si que je suis dans la difficulté financièrement, et je sais que Mohamed est très riche, d'accord? Et chaque fois je vois, ah, ben, oublie pas, ou là des mauvais aides à moi, tu as dit que tu allais m'aider financièrement, ben, quand c'est possible, n'oublie pas, tu dois me prêter telle somme à chaque fois, je vais vers lui parce que j'ai besoin de ça. Umar allait voir ce sahaba, pourquoi? Il demandait, est-ce que, donne-moi les informations, est-ce que mon nom fait partie des 40 grands hypocrites de cette Ummah? Ça, c'est qui ça? Ça, c'est Omar ibn al-Khattab, celui qui allait devenir deuxième calife, celui dont le iman est exceptionnel, indescriptible. Ça, c'était le souci des sahaba pour leur iman. Et nous, de nos jours, je parle Allah et je ne suis pas mieux que vous. Je suis persuadé que l'essentiel de l'assemblée est mieux que celui qui parle. Notre iman, notre souci permanent, c'est quoi? C'est ce que je vais manger demain, dans quelle voiture je vais rouler, quel combien d'argent je vais gagner, etc. etc. Wallahi, l'essentiel de nos soucis sont concentrés sur le dunya. Chacun doit faire une auto-analyse. Et là, je parle des gens religieux. Si vous êtes là, c'est que, alhamdoulilah, vous êtes religieux. Quand on fait doigt, quel est le premier doigt qui sort de notre bouche? Est-ce que nous demandons Rabbana atina fi dunya hasana fi l'akhirati hasana wa qina azab an-nar? Ou demandons Rabbana atina fi dunya hasana bas wa ma lahu fi l'akhirati? Qu'on n'a aucun intérêt, on n'a aucun. Yani, notre objectif, c'est que le dunya. Même quand on demande à Allah, on doit analyser en quoi consistent mes invocations. Est-ce si je me rends compte que dans mes doigts, je ne fais. C'est une bonne chose de le faire. Le doigt, c'est ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Oui, c'est une bonne chose. Mais si je me rends compte que dans mes doigts, je ne fais que demander la santé, que le bien-être de mes enfants, leur réussite scolaire, leur réussite dans leur apprentissage du Coran, qu'ils deviennent des enfants, puis, etc. Si je me rends compte que je ne demande pas à Allah tous les jours de me garder dans le droit chemin, d'augmenter mon iman de jour en jour, d'augmenter mon yaqin en Allah, mon amour pour Allah, mon amour pour le prophète, de m'accorder une mort avec iman dans l'accomplissement de bonnes œuvres, dans le chemin d'Allah, d'être ressuscité parmi les nabis, si je ne demande pas ces doigts, ça veut dire que réellement, intérieurement, mon fikal, c'est le dunya. Même si je m'oriente vers celui qui donne le dunya, vers le razik, mais il faut bien comprendre que mon fikal principal doit être le akhir. Demander la mort avec iman. Analyser, quand quelqu'un va au Hajj Umrah, hein, là c'est aussi bien de se demander ben, quel sera le premier doigt de cette personne. C'est bien de demander autant de doigts, mais le premier souci du musulman, c'est quoi? C'est demander à Allah la foi, la guider, d'y rester, de rester dans le droit chemin et de mourir dans le droit chemin. Et comme on l'a expliqué la dernière fois, celui qui vit dans le droit chemin et qui meurt dans le droit chemin, c'est le plus important. Et tout ce qu'il y a autour de ça, c'est pas grave. Wallahi, je vous jure par Allah, tout ce qu'il y a autour de ça comme difficulté, comme problème, comme souci, comme stress, comme injustice, des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi un tel il fait ça? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il se comporte? Wallahi l'azim, tout ça, vous allez complètement oublier à partir du moment où Malik al-Maut vient reprendre le rouh. La seule chose qui sera importante pour vous à ce moment, c'est est-ce que mon âme va aller avec le rouh des croyants ou alors mon âme va monter et être rejetée comme les munafiqis et comme les kuffars. Ça, ce sera le seul souci. Analysez les petits soucis du quotidien. Facture à payer ou telle chose, des petits soucis pas extrêmement importants qui parfois nous envahissent. Il suffit d'avoir un vrai problème pour tout oublier. Par exemple, les enfants, ils ont des mauvais résultats à l'école, on est convoqué par le proviseur, il a fait telle bêtise, ma voiture est en panne, mon garçon est en France, il n'a pas assez d'argent pour payer son loyer, résident universitaire. Les petits soucis du quotidien. Un exemple, d'accord? Ça vous travaille, vous êtes stressé, là, vous dites comment on va faire du matin au soir, vous y pensez, et que Allah protège, du jour au lendemain, on a un vrai problème qui touche notre santé ou la santé d'un enfant qui est très grave. Immédiatement, vous oubliez tous les petits soucis et votre fikal reste. C'est exactement le même schéma. Quand arrive l'heure de quitter ce dunya, vous ne pensez plus à madame, aux enfants, au dunya, à votre magasin, à votre loyer, à votre voiture. Toutes ces choses-là redeviennent dunya, redeviennent futiles et périssables. Et là, vous vous rendez compte que la seule chose qui compte, c'est la foi que vous avez. De votre cœur. Inch'Allah, on va voir un verset de Wassama'i wa Tariq wa ma'adraka ma Tariq, et à la fin, on parle de que chaque personne a avec lui un gardien. Il n'a aliha hafid. Il y a quand on parle de gardien, entre autres, on va dire que c'est les anges qui sont là. Depuis qu'on est bali jusqu'à notre mort, ils sont là pour inscrire chaque action qu'on accomplit, bonne comme mauvaise, chaque parole qu'on a pu prononcer, et chaque chose qui est dans notre cœur également, il l'inscrit. Jusqu'à ce qu'on les retrouve exactement le jour de Qiyamah. Ça, c'est la vie du musulman. Faire en sorte que les actions qui seront écrites ne seront que des bonnes actions. Et qu'il y ait le moins de péchés possible inscrits dans notre livret. Et si péché il y a, de faire en sorte de demander immédiatement pardon à Allah. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est quand je quitte ce monde, Allah est content de moi. Et les êtres humains n'ont rien à me reprocher. Et ça, ça rejoint le tafsir du verset d'aujourd'hui. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, comme on a dit tout à l'heure, réussi, c'est être celui qui se purifie. Aflaha. Ça, c'est le mot que nous voulons. Aflaha. Aflaha, c'est quoi? Celui qui réussit. Si on pose la question à quelqu'un qui n'a pas la foi en Allah, quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est quoi Qad aflaha pour toi? Celui qui réussit, c'est quoi? Il va vous dire que celui qui a bon travail, celui qui a trouvé une jolie femme, celui qui a des enfants, qui est heureux, épanoui dans sa famille, dans son travail, qui a de l'honneur, qui a une belle voiture, qui est aimé, qui a un groupe d'amis, qui est social, qui est sollicité, qui monte de grade, qui devient célèbre, etc., etc. Ça, c'est la définition de Qad aflaha. La définition du falah. La définition du succès pour celui qui n'a pas la foi. Mais pour nous, quand l'imam dit « Hayya ala al-falah », venez vers le succès. Est-ce qu'il vous appelle vers les biens de ce monde? Est-ce qu'il y a des guichets, des distributeurs d'argent de la masjid quand chaque moussali rentre, il gagne, il a du cash? Non! Le falah, c'est quoi? C'est que vous entrez dans la masjid, vous vous prosternez devant Allah, vous obtenez des récompenses et en cumulant les salats, vos péchés sont effacés entre chaque salat. Quand vous faites le tahara, le wuzu, vos péchés également sont effacés. Ça, c'est al-falah. Ça, c'est le succès. Voir ses péchés effacés, obtenir le consentement d'Allah, augmenter son iman. Et le faire de manière perpétuelle, 5 fois par jour, toute notre vie, jusqu'à quand? Jusqu'à hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Et vous le faites. Vous le faites. Faites ibadah. Adorez Allah. Répétez ça. Répétez ce culte jusqu'à ce que Malik al-Maud reprenne votre âme. Et si Malik al-Maud reprend votre âme avec des années de salat où vous n'avez jamais rien manqué, et qu'Allah est content de vous, et que les gens n'ont rien à vous reprocher. Vous ne devez pas d'argent à personne, vous n'avez pas fait du mal, vous n'avez pas fait du tort aux gens, vous n'avez pas insulté quelqu'un, vous n'avez pas fait de médisance, de calomnie, vous n'avez pas été un acteur pour la rupture d'un couple, pour la rupture des relations familiales, etc., etc. Personne ne vous en veut, et Allah est content de vous. Alors c'est quoi votre situation? C'est Qad aflaha. Vous avez réussi. La réussite, la définition de la réussite pour le musulman, c'est ce qu'on a dit là. Comment il a vécu de ce dunya? C'est quand l'ange de la mort vient prendre son âme, c'est l'ange de Rahma qui vient. Avec 500 malaïka de Rahma, 500 anges de bénédiction qui viennent et qui vous annoncent tous Allahu yuqri'u kassalam. Ça, c'est Qad aflaha. Hadith, il y a plusieurs hadiths qui parlent, on ne va pas citer ces hadiths, on n'en finira plus. Que le mu'min, lorsqu'il quitte ce dunya, avant que Malik al-Maut en personne vienne reprendre son âme, il y a dans cette hadith un cortège de 500 anges qui viennent avec Malik al-Maut, qui le précèdent, et les anges annoncent la bonne nouvelle aux croyants qu'Allah Ta'ala est satisfait de toi et qu'Allah Ta'ala t'adresse ses salams. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Qad aflaha. Qad aflaha, c'est quoi encore? C'est quand mon corps est lavé par les personnes de Rastil, les personnes qui donnent le pain mortuaire aux gens. Comme dans certaines riwayats, il dit que le mort, lorsqu'on lui donne son bain, il est entièrement conscient. Il entend tout ce que les gens disent. Et dans certaines sources, hein, ça j'ai pas trouvé la source, le hadith précis, mais certains ulama le disent, qu'à ce moment précis, le mort, il est accompagné déjà de ses actions. Déjà à ce moment, ses a'mal sont avec lui. Qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de bonnes actions. Et quasiment pas de péché. Ça c'est Qad aflaha. Qad aflaha, c'est quoi encore? C'est lorsque on me met dans la tombe, lorsque les personnes jettent les premières poignées de terre en disant « Minha, khalaqnakum, wa fiha, nu'idukum, wa minha, nukhrijukum, taratan ukhra » et qu'ensuite, après avoir jeté des poignées de terre, on prend la pelle et qu'on vous enterre. Tout le monde a assisté à Janaza, oui ou non, à la réunion, voyez, on vous enterre. Et que quand tout est fini, et que les gens s'en aillent, et que les anges, et là, quand les gens partent, là, les anges viennent. Et quand les deux anges viennent, ils posent des questions, que j'arrive à répondre avec grande facilité. Ça, c'est Qad aflaha. Et que ma tombe s'élargit, et qu'une fenêtre de paradis est ouverte pour moi, d'où je peux voir et sentir le Dieu du paradis, et que je repose en paix jusqu'au mahshar, jusqu'à ce qu'il se passe, mahshar, jusqu'au qiyam al-sa'a, jusqu'à ce qu'Israfil alayhi salam souffle dans la corne. Ça c'est qad aflaha. Qad aflaha c'est quoi encore? C'est quand je me suis ressuscité avec le second souffle de Israfil alayhi salam, je vois que l'endroit où je suis ressuscité, je vois qu'à côté de moi il y a qui? Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Qui a Abu Bakr, qui a Umar, qui a Uthman, qui a Ali, il y a Musa bin Umar, il y a Sa'ad bin Mu'ad, il y a Abdurrahman bin Awf, il y a Abu Huraira, il y a les Sahaba, il y a Nafi', il y a, subhanallah, il y a tous les tabi'in, les atba'i tabi'in, les grands savants. Je me rends compte qu'Allah m'a ressuscité avec ma'an-nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin. Ça c'est qu'ad aflaha. Et qu'au loin, au loin, au loin, je vois des gens qui n'étaient pas de le droit chemin, qui n'avaient pas iman, et ils sont eux avec Qaroun, Fir'aun, Haman, et les kuffars, les foussats de cette umma. Ça c'est qad aflaha. Qad aflaha c'est quand je me rends compte qu'Allah me donne l'honneur d'être sous l'ombre de son trône. Yom ala dhilla illa dhillu. Le jour il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre d'Allah. L'ombre du trône d'Allah. Parce que j'ai un de ces sifat. Une des qualités de ces sept catégories de personnes, soit que, ce qui peut nous concerner, c'est d'avoir le cœur lié à la masjid. Un mu'min qui aime la masjid, qui fait l'ibadat d'Allah. Ou alors, que je suis un musulman qui a passé l'essentiel de sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Ou alors que dans une situation de ma vie où j'ai eu l'occasion de faire le haram, je m'en suis abstenu, mais vraiment avec conviction et yaqin en Allah, que j'ai une de ces qualités, de ces sept personnes, pour être sous le trône d'Allah Azza wa Jal, le jour terrible du mahshar. Ça c'est qad aflaha. C'est quand on m'appelle par mon nom et le nom de mon père, pour remettre le livret, je reçois mon livret de la main droite, et là je retourne auprès de ma famille, et je dis quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les gens heureux? Ha umuqra'u kitabi. Tellement content. Celui qui reçoit son livret de compte de la main droite, il devient comme, je ne dis pas comme si il devient fou, mais il devient euphorique. Il va monter, ha umuqra'u kitab, venez lisez mon livre, voyez ce qu'Allah m'a accordé, voyez les récompenses, voyez les bonnes actions qui y sont inscrites. Même si de ce dunia j'étais pauvre, même si de ce dunia on me considérait comme un imbécile, comme un abruti, comme une créature inutile, parce que je suis à l'aide d'eux. Parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de situation, tu n'es même pas professeur, même pas docteur, même pas rien. Wallahi, ce n'est pas grave. Si j'ai la ilaha illallah dans mon cœur, j'aime Allah et ce prophète, plus que le dunya, plus que toute chose, je suis dans le droit chemin. Qad aflaha également, c'est lorsque, arrivé au mizan, à la balance, j'ai presque pas de péché. Parce qu'Allah m'a tout pardonné dans ce monde. Et qad aflaha, c'est celui qui passe sur le pont à la vitesse de la lumière et qui accède au paradis. Et qad aflaha, c'est celui qui a eu le firdaus, bighayri hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ça, mes chers frères, c'est qad aflaha. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pas grave. Parce que ça fait pas partie des conditions pour avoir qad aflaha. Le reste, wallahi, c'est pas grave. Comme on a dit, à notre niveau, on retiendra que quitter ce monde avec le contentement d'Allah et ensuite le contentement des gens. Que personne n'a rien à nous reprocher et qu'avec Allah Azza wa Jal, on a fait ce qu'on devait faire en termes de bonne action et on s'est éloigné des péchés. Qad aflaha man tazakka. Réussi, certes, celui qui se purifie. Le terme tazakka, les mufassirin rahimahumullah, ils donnent trois étapes dans le mot tazakka. Vous avez entendu parler du tazkiyah? Le tazkiyah, hein, ça vient du mot tazakka. Qad aflaha man tazakka. Il dit que tazakka, c'est se purifier. Ils disent qu'il y a trois catégories de tazkiyah. Il y a premièrement, il y a tazakka awwalan min ash-shirki bin nisbati li mu'amalatillah. Premièrement, c'est faire un tazkiyah dans ses croyances. Se purifier, le terme purifier est un peu, c'est pas le terme idéal en français, mais ça se rapproche plus. Faire un travail, tout d'abord, sur ses croyances, sur aqidah. De quelle manière? D'enlever de son cœur tout ce qu'il y a en dehors, mis à part Allah. Enlever tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, de son cœur, et faire entrer dans son cœur l'amour pour Allah et pour son prophète, et une croyance pure, une croyance authentique, un aqidah sahiha, en Allah subhanahu wa ta'ala. Enlever le riya, par exemple, l'ostentation, enlever le sum'a, l'envie d'avoir la reconnaissance des gens, etc. Tout ce qui va à l'encontre du ikhlas, tout ce qui va à l'encontre de la sincérité pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on va aller un peu plus vite, on parle de tazakka fi ittiba'i rasuli alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que faire un travail de propre correction également dans le cheminement vers le Nabi alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire dans la manière de suivre la sunna. C'est-à-dire que se dire que mon modèle, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Que dans ma vie, je suis mon prophète. Et donc, je ne prends pas des autres sunan, je ne prends pas des autres modes de vie, mais en même temps, dans l'obéissance au prophète alayhi salatu wa sallam, je fais bien attention à ne pas rajouter des choses que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même ne m'a pas ordonné de faire ou il ne l'a pas mentionné. C'est ce qu'on appelle al-bida. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam dit bien que « Man ahdada fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun » Celui qui apporte dans cette religion quelque chose qui n'existe pas à la base, c'est refusé. Immédiatement refusé. Il n'y a aucune chance qu'une action dont on ne retrouve pas la source dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'y a aucune chance que cette action soit acceptée par Allah. Parce que pour une action, pour qu'une action soit acceptée par Allah, il faut absolument qu'il y ait la sunna, qu'il y ait l'enseignement prophétique. Et la troisième chose, c'est « كَذَلِكَ يَتَزَكَّى بِالنِّسْبَةِ لِمُعَامَلَةِ الْقَالِ » Également, un travail qu'on doit faire sur soi-même, dans nos relations avec les gens. Et dans nos relations avec les gens, il y a ce qui est « ظَاهِر » et ce qui est « بَانْتِن ». Ce qui est « ظَاهِر », ce qui est apparent, c'est quoi ? Ne pas faire du tort, ne pas frapper les gens, ne pas insulter, ne pas faire de mal ouvertement. Et ce qui est plus intérieur, c'est quoi ? C'est de ne pas avoir de la jalousie dans son cœur, ne pas avoir de mauvaises pensées sur son prochain, c'est-à-dire ne pas développer des mots, M-A-U-X, des mots spirituels. C'est le ma'na, ça peut résumer, mais c'est le ma'na chamé, le sens le plus complet du terme d'esquia, faire sa propre correction. Donc première étape, c'est la correction par rapport à la foi, au iman. Parce que si on prend les deux étapes et on grille le premier, on n'a rien compris. Si le aqida, la croyance, n'est pas sûre, n'est pas pure, naqi à 100%, il n'y a même pas nécessité d'aller à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est dans la manière d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, l'attachement que chaque musulman doit avoir pour la sunna, suivre le mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam et ne pas faire d'excès de zèle non plus. Ne pas faire d'excès de ribadat, à un tel point qu'on emmène dans notre dîn des choses qui n'ont pas été instaurées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et troisièmement, c'est concernant les relations avec les gens, ne pas faire du tort, rien d'apparent, et même dans notre intérieur également, enlever tout ce qui est mot spirituel de notre cœur, jalousie, mauvaise pensée envers les gens, hypocrisie, etc. etc. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Et on entend, le terme tazkiya est très souvent employé de nos jours. Chacun doit faire en sorte d'analyser l'état de sa foi et de faire un travail sur notre intérieur. Quand on parle de tazkiya, c'est quoi en général? Une définition correcte du tazkiya, c'est quoi? C'est laver son cœur de tout ce qui est de toutes sortes de maladies spirituelles. Comme on a dit tout à l'heure, la jalousie. Le subhanallah, les termes ne me reviennent pas, entre autres la jalousie, l'ostentation, le riya, le sum'a, le shuhra, l'hypocrisie, toutes les mauvaises pensées envers notre prochain. Il y a toutes les choses qui vont, c'est comme une gangrène qu'il y a dans le cœur. Et que parfois en apparence, on a les actions qu'il faut, on a la salat, on a la zakat, on a le hajj, on a le ramadan, on a le coran, mais intérieurement il suffit parfois d'avoir un défaut, un péché pardon, comme la jalousie. Et le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a dit que la jalousie annule les bonnes actions comme le feu détruit, le feu consume le bois. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de bonnes actions, mais si on a quelque chose comme la jalousie dans notre cœur, nos actions seront détruites. On peut faire beaucoup de bonnes actions, mais si on a quelque chose comme l'ostentation dans notre cœur, les actions ne nous apporteront strictement rien. Maintenant, le cheminement vers la purification intérieure, c'est un travail à faire ce soir, mais ce cheminement doit avoir des bases authentiques. En aucun cas, apporter des formes de ibadat qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Si quelqu'un se dit, moi je fais telle chose pour me purifier intérieurement, mais si on analyse l'action qui est faite, on ne le retrouve ni dans la sunna, dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam, ni dans la pratique des quatre califes, ça veut dire que cette chose n'a pas de source dans la religion. Qad aflaha man tazakka, et on va terminer avec ça. Ah, on en a 34 minutes, non, on termine à 30 minutes, et le Mufassir dit également que le musulman se doit de faire le maximum pour créer des relations correctes avec les gens de la société. Il dit que, le premier pas que le musulman doit faire envers son prochain, pour que les relations restent correctes, c'est quelque chose de simple, c'est d'abord de faire salam à son prochain. Quand le prophète alayhi salat wa salam, parmi les enseignements qu'il nous a donnés, il y a quelque chose qui dit que vous n'accéderez pas au paradis tant que vous n'aurez pas le iman. Ça, tout le monde le sait, ça. Sans iman, on n'accède pas au paradis. Il n'y a rien de compliqué dedans. Mais attention, ce qui vient après, ça nous interpelle. Voilà, tu'minu hatta tahabu. Alors là, c'est compliqué. Je savais que pour entrer au paradis, il faut la foi. Donc ça, je dis que je suis musulman. Mais je ne savais pas que pour avoir la foi, hatta tahabu, il faut avoir la muhabba. Il faut que chaque musulman aime son prochain. Alors là, comment il fait là? Namaz, il fait ma casse-pas-tête. Ramadan, il fait mon 30 moins. Mais demande-moi à mon voisin, ça les tue. Demandez-moi d'aimer mon prochain comme j'aime ma famille, avoir un muhabba sincère pour mon frère en islam. Ah oui, mais lui c'est un bon camarade, mais lui il ne connaît pas. Lui, pourquoi il n'aurait pas une relation avec lui? Ça c'est plus compliqué. C'est ce qui distinguait la société à l'époque des sahabas. Muhajir et Ansar qui avaient un muhabba extraordinaire alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Cette harmonie qu'il y avait dans la société à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'état d'esprit du musulman. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sont des frères. Mais de nos jours, ça reste un discours. Ça reste quelque chose de beau. C'est comme un poème. Quand on dit que les musulmans sont des frères, on dit ouais, c'est bien, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas. Mais je dois faire un travail dessus. Quand on a dit que le tazkiya c'est également des relations avec les gens, ben c'est ça, développer l'amour pour son prochain. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman est un miroir pour son prochain, ça veut dire que quand je vois quelque chose qui me déplaît chez une personne, ben je dois me demander avant tout si quelqu'un d'autre ne voit pas le même défaut chez moi. Par exemple, que je vois une personne, ouais, quand il parle avec les gens, il parle avec fierté. Allez, un exemple, d'accord? Je dois me demander, est-ce que moi-même, je ne le fais pas? Quand je vois quelqu'un que oui, ben, on dirait que c'est quelqu'un, il est un peu mon foutiste, il n'a pas de respect, il réfléchit pas quand il parle, d'accord? Je ne vois que les défauts de mon prochain. Mais à moi de voir si moi-même je n'ai pas ça dans mon cœur. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, le fréquenter par amour pour Allah. Et ne pas border quelqu'un parce qu'il a tel défaut. Tout ça, ça nous permet de construire des relations dans la société et de développer l'amour de notre prochain dans notre cœur. Afin que cela, on concrétise ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Vous savez, si aujourd'hui on dit ça dans une conférence avec des non-musulmans, que la Ummah est comme une construction. Kalbunyan et l'wahid. Yashuddu ba'duhu ba'dan. C'est dans une construction, ceux qui savent, ceux qui sont maçons ou autre chose, chaque brique soutient celle qui est au-dessus. D'accord? Les premières briques que vous posez, si vous mettez un nous met pas, juste pour jouer, fait comme ça, comme là. C'est quel bâtiment vous allez monter? Il faut que les briques soient bien collées. Il y a le ciment ou le truc qui permet de coller, etc. Plus les briques, si les briques sont bien fixées, vous pourrez monter quelque chose de correct. Ça, c'est une métaphore que le prophète Ali Sassam nous a donné pour faire comprendre comment doit être la société des mu'minines. Chacun doit être proche avec la chose qui unit les musulmans, c'est alaqatul iman, la foi, le iman qui est dans les cœurs. Et c'est ça que je dois travailler. J'ai déjà travaillé plein de choses, moi, les choses qui sont zahir, les choses qui sont apparentes, les ibadat. Mais cet amour que je dois avoir pour mon prochain, si je ne l'ai pas, je dois essayer de le travailler. Et comment le travailler? Sans ça, je n'ai pas véritable iman. Parce que c'est ça qui me bloque. La tatrulul jannata hatta tu'minu, ça, il n'y a pas de problème, je le savais. Mais, wala tu'minu hatta tahabu, ça, c'est plus compliqué. Vous n'aurez jamais le vrai iman tant que vous ne vous aimerez pas entre vous. Même Isa alayhi salam, Jésus-Christ, n'a pas dit aimez-vous les uns les autres. Il l'a dit. Et ce discours-là, on le retrouve dans toutes les religions. Si cela existait également dans les livrets, ben subhanallah, dans les grands livres qu'Allah avait révélés, bien sûr, ces informations existaient déjà. Maintenant, le prophète nous donne une indication. Il dit, bon, il faut aimer son prochain pour avoir iman. Mais comment aimer son prochain? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut absolument aller donner de l'argent à tout le monde? Est-ce qu'il faut inviter tout le monde à manger chez moi tous les jours? Non, pas besoin de faire tout ça. Le premier pas, c'est quoi? Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. Ça me dit que je vous explique, je vous montre une action. Si vous le mettez en pratique, vous allez avoir de la muhabba entre vous. Vous allez avoir de l'amitié entre vous. Bien sûr, on veut savoir c'est quoi qu'est-ce que je dois faire, quel est le premier pas à faire pour qu'il y ait de la muhabba entre les musulmans. Afshu salama baynakum. Faites vos salams. Transmettez le salam. Et dans Tahrir al-Fawsan, il dit que wa taqra'u as-salama 'ala man 'arifta wa man lam ta'rif. Et faites le salam à ceux, aux gens que vous connaissez, mais également ceux que vous ne connaissez pas. Parce que le salam, ce n'est pas bonjour. Le salam, c'est que la paix, as-salam, c'est min asma'illah. Que la paix d'Allah soit sur toi, mon frère. Le salam n'est pas qu'un tahiyya, n'est pas qu'un bonjour. Le salam est un dua, c'est une invocation à l'attention de notre prochain. C'est pour ça que assalamu alaikum, on dit que à ceux qui ont iman. Ceux qui n'ont pas iman, on ne dit pas assalamu alaikum. Parce que ça, c'est un dua. On demande que la bénédiction d'Allah, que la paix d'Allah soit sur toi. D'accord? Donc, en commentaire, les muhaddithines disent que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam nous fait comprendre que en faisant le salam, vous aurez de l'amitié. Parce que le premier pas, quand vous voyez quelqu'un, vous le faites salam, c'est déjà un premier contact. C'est déjà un premier contact, vous lui donnez droit. Il dit que, imaginez qu'au cas contraire, hein, un musulman passe près de vous et vous ne le faites pas salam. Il va ressentir quelque chose dans son cœur. Ou qu'un musulman passe près de vous, il vous regarde comme ça, et il vous dévisage et il traverse. Hein, il ne fait pas salam. Vous allez ressentir quelque chose dans votre cœur. C'est-à-dire que la personne voit des salam alaikum, ben, on sent qu'il y a le lien de iman. Pas plus loin, on ne va pas donner des exemples compliqués. Aujourd'hui, salat al-Jum'ah, je vais faire le bayan en ville, Paris, premier sabbat. Je parle avec le responsable, et puis à gauche il y a quelqu'un, je regarde, je fais salam alaikum, ça va? Je dis oui, ça va. Puis avant de monter sur une balle, la personne me dit, tu sais ce que tu as fait là, ça m'a touché. Qu'est-ce que ça m'a fait? Avec mon poche, je m'a pas donné un monnaie par exemple, pas fait exprès, non, mon argent était la même. Elle dit que ce que vous avez fait, ça m'a touché. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, ben, vous êtes arrivé, vous m'avez fait salam. Donc, pourtant, on ne se connaît pas, pas spécialement. Je dis, mais ça c'est normal. Elle dit, mais pas tout le monde le fait, ça c'est important. Je dis, subhanallah. Vous savez, ça c'est une bonne action, ça, de faire entrer la joie dans le cœur d'un musulman. Autant c'est un péché que de casser le cœur de son prochain, autant c'est une bonne action de faire rentrer à ce jour la joie dans le cœur de son prochain. Mais subhanallah, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. J'ai juste fait salam à ce frère, que je ne connais pas vraiment, c'est quelqu'un d'âgé, moi je ne suis pas trop âgé. Il m'a dit que ça m'a touché. Je dis, subhanallah, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et réellement, quand vous faites salam, et je suis persuadé que quand je vais revoir la personne, ce n'est plus les mêmes relations. Il dit que c'est... Quand vous faites salam, la personne se dit que ben, lui, il ne se prend pas pour un bouc supérieur. Enfin, quand quelqu'un est fier, il ne va pas faire salam à un pauvre, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Non, il m'a dit que moi, je fais salam aux riches, je fais salam à ceux qui sont du même rang que moi. Mais quand vous faites salam à tout le monde, ben, c'est un peu une preuve d'humilité dans un certain sens. Au-delà du fait que cela permet un premier contact, c'est également une preuve d'humilité. Et on terminera avec ça. Hein, lorsque le prophète Islam dit que faites salam à tout le monde, ceux que vous connaissez et également ceux que vous ne connaissez pas. Pourquoi les ulama disent que si je fais salam uniquement à ceux que je connais, aux gens que je connais, ben, je n'ai pas fait salam pour Allah. Je n'ai pas fait dans le but de faire ibadah. Je l'ai fait par amitié pour cette personne. Regardez le diqqa, la précision qu'il y a de la sincérité. Quand vous faites une action, c'est pour Allah. Parce que si je fais salam à Muhammad, je fais salam à Ishaq, ça veut dire que je fais parce que je le connais, c'est un ami. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est pas parce qu'il est ma famille ou mon ami. Non, c'est parce qu'il est mu'min et qu'Allah m'a demandé de le faire, de renforcer le lien de muhabba. Et que le prophète m'a dit, Afshu salam baynakum, je mets en pratique une sunnah, que je connais la personne que je ne connais pas. Ça, c'est le premier pas pour qu'il y ait la muhabba dans les cœurs. Et pour casser l'orgueil, pour casser la piété, pour remplir nos cœurs d'humilité. Et on finit que par ça, peut-être qu'Allah Ta'ala renforcera la muhabba entre nous. Et regardez, subhanallah, et ça c'est la conclusion, regardez dans notre din, comment on se fait du souci pour notre prochain. De nos jours, vous avez entendu parler de la journée du voisinage. Une fois par an, hein, tout le monde descend, de la manger, il rencontre son voisin et tout et tout. Ils sont obligés de trouver des manifestations culturelles, je ne sais pas quoi comme ça, un peu folkloriques même parfois, pour que les gens apprennent à se connaître. Encore la Réunion, ça va plus ou moins. Mais demandez les gens qui habitent en métropole, dans les banlieues, etc. etc. Comment s'appelle votre voisin de palier? Crée pas. Dis bonjour, bonjour aussi, dis pas. Hein, 20 ans à vivre avec lui, dis pas. Parce que j'ai fait une disquette une fois, et un Africain, il sort du Sénégal, il vient d'arriver en France. Au début, il arrive, il dit bonjour madame, bonjour monsieur, et tout le monde dit qu'il est bizarre. Elle dit qu'un mois après, excusez-moi, j'ai vu ça quelque part, vous avez dit une fois. Un mois après, elle dit maintenant, Mamadou, il a compris que c'est quoi être un vrai citoyen. Et il passe côté des gens, il ne garde pas, quand il y a quelqu'un qui est en train de mentir, il donne un coup de pied, il dégage et tout. Elle dit, ah là, c'est un bon citoyen. Ça, c'est caricatural un petit peu, mais ça me fait comprendre que c'est quoi la réalité la réalité des relations humaines dans la société. Mis à part le téléthon, ce genre de choses, il n'y a pas vraiment de mohabba, de fraternité, il n'y a pas de lien humain entre les gens. Si je peux vivre 20 ans dans un appartement sans connaître le nom de mon voisin, sans lui donner un petit plat, sans qu'il y ait d'échange, c'est que vraiment, nous sommes, il n'y a plus de sentiment humain, subhanallah. Enfin, dans notre dîn, hein, on ne va pas développer les alaqa ijtima'iyya, mais dans notre dîn, hein, on se doit d'avoir de bonnes relations avec madame, les enfants, bien sûr, avec la famille proche, la famille éloignée, les voisins. Il n'y avait pas besoin d'attendre la journée de la famille en 2008, qu'on a commencé le passage, mais a dit que tellement Jibril a insisté sur le droit du voisin qu'à un moment donné, j'ai eu peur qu'ils disent que le voisin a un droit dans mon foulouse, dans mon héritage. Tellement. Voisin, mais écoutez, à un moment donné, c'est sûr, il va dire que ton voisin hérite de toi. Mais Jibril ne l'a pas dit. Subhanallah, l'islam régit la société d'une telle manière que tout le monde arrive à connaître son prochain et avoir des échanges, des relations humaines sincère, hein, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans la société, Allah musta'an, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Pour ceux qui croient en Dieu, vous avez Dieu, mais sinon vous avez chacun pour soi et Facebook pour tous. C'est tout. Et toutes les relations sont virtuelles, Allah musta'an. Il y a des époques, vous savez qu'il y avait beaucoup de pluie. Ça, c'est ici ou ailleurs, il y avait beaucoup de pluie il y a deux semaines là. Il y avait beaucoup, subhanahu, trois ou quatre jours de pluie. Moi, je passais dans le centre-ville de Saint-Denis comme ça, et je voyais des sans-domicile fixe. Pas ça à qui, Allah, des pauvres, des clochards, comme on dit, hein, ils sont dans la rue, il pleut. Nous-mêmes, quand on sort de la masjid, on court pour rentrer dans la voiture, on n'a pas appuyé, on arrive chez soi, on se change, on met des vêtements propres, on prend une douche, on est content. Je dis, ben, subhanallah, cette personne-là, elle n'a pas d'autres vêtements, elle n'a pas de parapluie, il reste sous un préau comme ça, et il attend que la pluie s'arrête. Et s'il est mouillé, il n'a rien d'autre, il attend que ses vêtements sèchent. Je dis, ben, ça, c'est une société moderne, ça. Et nous, on regarde les autres, on dit ça, c'est le tiers-monde. Alors que dans notre ville, nous, on est dans notre villa, dans notre appartement luxueux, et en bas, il y a quelqu'un qui n'a peut-être qu'il a mangé aussi, peut-être qu'il n'a pas, et qui va dormir. Subhanallah, mais c'est quoi la réalité de l'ijtima'? Quelle est la réalité des relations humaines? On voit là vraiment que si une personne met en pratique, hein, l'islam dans son intégralité, ça devient la société parfaite. Qu'Allah nous donne le tawfiq, mes chers frères, à nous tous de comprendre, hein, la valeur de notre dîn, de comprendre les bases de notre religion, et qu'Allah Ta'ala mette de la muhabba dans le cœur de chacun. Que déjà, on fait l'effort de faire le premier pas. Quand je vois mon prochain, je fais salam alaikum. Et je ne le fais pas juste comme ça, parce que je l'ai appris à m'adresser. Non, parce que je mets en pratique, hein, ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de faire. Et j'ai espoir qu'Allah Ta'ala renforce la muhabba dans la umma par le biais de cette simple phrase. Et qu'Allah Ta'ala nous donne ses qualités également pour faire partie des gens qui ont qad aflaha, qui ont eu la réussite dans ce monde et dans le delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. جزاك الله خير.